Eh bien, un grand bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici. 1996, c'était la première remise du diplôme de l'IBG, la fin du premier cursus sur 4 ans, c'était il y a 28 ans. Et vous pouvez y reconnaître une illustre personne, notre directeur émérite actuel en haut à gauche. Et je suis présent juste à ses côtés avec Bénédicte, nos deux premiers enfants. Et puis j'en suis très fier, par ordre alphabétique aidant, j'ai reçu le premier diplôme de l'Institut public de la main de Mike. Donc vous comprenez ma joie d'être ici pour cette occasion, et puis aussi beaucoup d'émotions qui m'envahissent avec ce regard en arrière. La mission de ce jour, eh bien, elle est d'encourager les étudiants qui finissent leur année ou leur cycle d'études. Mais nous le savons, malgré le certificat ou le diplôme en poche, ils en sont pour la plupart qu'au début de l'aventure chrétienne. Et d'ailleurs, ne sommes-nous pas chacun également en route, en chemin? J'ai donc choisi de partager ce matin une courte feuille de route pour nous encourager et nous donner quelques repères qui, j'espère, nous seront bien utiles. C'est à partir du psaume 131. Comprenez que cette feuille de route, je ne l'ai pas créée moi-même, puisqu'elle est élaborée à partir de ce beau psaume. Bien sûr, cette feuille de route sera teintée d'expériences personnelles, de multiples observations liées à une vingtaine d'années de ministère inter-église. Je vous lis donc ce beau psaume, psaume 131, le chant des montées. Chant des montées de David. Éternel, je n'ai pas un cœur orgueilleux ni des regards hautains, et je ne m'engage pas dans des projets trop grands et trop élevés pour moi. Au contraire, je suis calme et tranquille, comme un enfant sevré qui se trouve avec sa mère. Je suis comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et pour toujours. Lorsque David Niblack m'a demandé les références du passage de cette prédication, il m'a dit « Ah, c'est un beau texte. Ben, j'espère que vous l'appréciez aussi. C'est pas un bon choix ? Ah, merci, c'est déjà ça. Peut-être vous aurez un petit peu plus de mal avec la suite. Avec cette boutade, je voudrais introduire mon premier point de cette feuille de route, ne pas se prendre au sérieux, ne pas se prendre au sérieux. Il y a une expression qui dit ceci, faire les choses avec sérieux, mais ne pas se prendre au sérieux. Et pour plusieurs étudiants, c'est le retour dans votre assemblée locale. Et puis, vous allez porter un nouveau regard, un regard différent sur votre Église. On va parler de critique constructive. Le dernier mot est très important. Mais vos frères et sœurs vont aussi porter un autre regard sur votre personne. Pour d'autres, c'est un ministère officiel qui les attend et ça devient très sérieux tout ça. Évidemment, il y a des attentes. Des attentes qui sont bien présentes, très fortes. Alors je vais commencer avec une attente qui est justifiée, une attente qui est biblique. Pour résumer cette attente, je vous cite, c'était il y a une dizaine de jours, le président du CNEF, le Conseil National des Évangéliques de France, le président du CNEF, Erwan Clorec, soulignait que nous sommes passés, après 16 siècles de chrétienté, à l'ère post-chrétienne. Au paganisme. Et ce déclin s'est réalisé en à peine 50 années, une cinquantaine d'années. Et il s'est appuyé sur l'ouvrage d'une philosophe catholique qui s'appelle Chantal Delsol, un écrit qui s'intitule « La fin de la chrétienté » et qui fait remarquer ceci, je vous lis juste quelques lignes. C'est dans ce contexte-là, le paganisme, que Christ appelle notre génération et celle qui vient à être témoin de son évangile, témoin d'une espérance vivante. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est dans ce contexte-là, il y a 2000 ans, que le christianisme s'est répandu comme une traînée de poudre. C'est dans ce contexte-là que le monde a été gagné à Christ. C'est dans ce contexte-là qu'un réveil spirituel s'est répandu à l'échelle de la terre. Donc vous comprenez, notre monde a besoin de cette lumière que nous portons lorsque nous nous disons chrétiens. Et il y a urgence, selon cette philosophe, et peut-être même de belles perspectives à vivre, notamment pour nos chers étudiants, nos nouveaux ouvriers qui sont bien équipés, bien armés dans cette grande moisson. Alors il y a aussi des attentes qui découlent de la première, donc a priori justifiées, mais qui pourraient devenir malsaines. Tout d'abord, la pression extérieure locale ou hiérarchique. Je suis sensible au regard des autres. Ben, pas vous, j'imagine. Nous sommes sensibles au regard des autres. D'autant plus s'il y a entre nous une fiche de poste, un cahier des charges, peut-être même des évaluations, des missions à réaliser, des attentes importantes. Il y a le besoin de résultats. Comment mesurer les résultats d'un ministère? Sur quels critères? Des chiffres? Je ne pense pas que ce soit la bonne piste. Toujours est-il que là encore, on se donne ou on attend des résultats. Il y a aussi le rapport aux finances. Alors ce n'est pas si évident que cela de dépendre des dons des frères et sœurs. De savoir que la ligne la plus importante du budget local qui est annoncée à l'Assemblée générale, c'est celle qui vous concerne. Alors, vous m'avez compris, pour faire court, en dehors de la motivation d'œuvrer dans l'Église pour glorifier le Seigneur, pour répondre à son ordre de mission, eh bien, il y a de nombreuses attentes susceptibles de créer une pression malsaine. Un risque, la motivation initiale de simplement servir le maître dévie, peu à peu, petit à petit, pour répondre à des attentes secondaires. Selon la manière dont nous allons les appréhender, selon la place que ça va prendre à notre esprit. La nécessité d'assumer, de contrôler, de montrer que je suis capable, mon besoin de reconnaissance, tout cela pourrait bien nous détourner de la mission essentielle. Et vous comprenez, c'est ce que j'appelle se prendre trop au sérieux. Ou finalement, je sers ma propre personne à cause de mon cœur trop orgueilleux, pour reprendre les termes de David. Tout ceci d'autant plus que le statut de nos chers étudiants va évoluer. Alors chez nous, il n'y a pas de chasuble sacerdotal, il n'y a pas de robe pastorale, mais il y a des titres. Diacre, diaconesse, missionnaire. Et même dans nos assemblées CAEF dites de frères, on parle aujourd'hui de pasteur. Notre monde apporte beaucoup d'importance à notre statut social. Et nous nous définissons ainsi la plupart du temps. Je suis ingénieur, menuisier, aide-soignant, pasteur. Et un nouveau statut peut exercer une pression excessive, néfaste. Ou au contraire, apporter de la satisfaction. Beaucoup. Trop. Monter à la tête. Beaucoup d'attentes. Hein. Et une petite dernière, les projets. Les projets à mettre en place. Alors, j'aurais beaucoup à dire sur les projets, parce que je suis toujours un des premiers à parler, à penser vision, objectif, à décliner les moyens à mettre en place, à m'efforcer de les mettre en œuvre. Je vois que Renan est présent et vous saluerez François Scheidegger. Et lors de mon C3 à Renan, m'avait qualifié justement, et je pense prophétiquement, de rouleau compresseur. c'est vrai que j'aime bien faire avancer des projets. Je suis naturellement plus à l'aise, je vais être honnête, hein, naturellement plus à l'aise avec des projets qu'avec les personnes. Bon, vous pouvez quand même m'aborder. Hein. Je ferai des efforts, j'essaierai d'être sympathique. Alors mes amis, quel est ou quel sera votre rapport au projet ? Ambition présomptueuse, réalisation de rêves personnels, facteur de réussite, ou un service, un simple service répondant à un réel besoin et mis en place pour le bien commun. Alors ainsi, malgré les attentes, malgré votre formation, vos convictions, vos dons, votre personnalité, vos compétences, vos idées, eh bien, ne pas se donner une importance démesurée. Reconnaître ses propres faiblesses, savoir faire preuve de souplesse, d'humour à propos de ce qu'on est ou de ce qu'on n'est pas, et surtout s'entourer, écouter les frères et sœurs expérimentés pour servir tout simplement. Ainsi, David nous dit « Éternel, je n'ai pas un cœur orgueilleux ni des regards hautains et je ne m'engage pas dans des projets trop grands et trop élevés pour moi. » Faire les choses avec sérieux, mais ne pas se prendre au sérieux. Le deuxième point de cette feuille de route, c'est rester attentif aux signaux d'alerte. Lorsque le feu clignote à l'orange, dans la version seconde, 1910, David dit « Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille. » J'ai l'âme calme et tranquille. David se dit « calme, tranquille. » Et vous savez que ce n'est pas la seule fois dans sa vie. Je cite par exemple le psaume 4 dans un contexte vraiment compliqué. Il est en guerre civile contre son propre fils Absalom. Il est caché, je ne sais où, peut-être au fond d'une grotte, et il écrit « Je me couche et je m'endors en paix ». Alors aujourd'hui, on dirait que la normalité d'un serviteur évangélique, c'est d'être fatigué ou débordé. D'autant plus si tu te retrouves à un poste de responsabilité important. Ah Michel, comment ça se passe ton ministère ? Ça va, tranquille, bien détendu. Ah, j'ai bien dormi, j'ai le sommeil paisible. J'avance, cool, sereinement. Alors franchement, ça ne le fait pas, comme disent les jeunes aujourd'hui. Surtout si c'est sur une lettre de nouvelle à ses donateurs. Et nous vivons et nous présentons une vie chargée, une vie mouvementée. L'opposé de calme, tranquille, c'est trouble, agitation, fébrilité, tension. Et je vous propose de considérer ces opposés comme des signaux d'alerte, comme des panneaux danger, des feux clignotants. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, elle nous réserve de mauvaises surprises, des épreuves, diverses souffrances et donc du stress. Je vais mettre cela de côté, mais en dehors d'épreuves particulières, est-ce que ces signaux ne me rappellerait-il pas que je vise un peu trop haut ou vers la mauvaise cible, que ma motivation est peut-être altérée ou encore que j'œuvre par mes seules et propres forces. Tout ceci nous alertant de risques à terme sur notre propre santé physique ou mentale, fatigue, usure, burn-out, dépression, on en parle beaucoup dans nos églises, et ou nous alertant d'un comportement spirituel déviant, grave, indépendance, cynisme, victimisation, autoritarisme. Alors stress, crispation, nervosité, ça clignote. Il est encore temps de se poser les bonnes questions, de réfléchir, de ralentir, de se recentrer sur l'essentiel, de se recentrer sur Christ. Cela m'arrive vraiment régulièrement. Lorsque le feu est au rouge, Selon le dictionnaire biblique, le cœur désigne le centre qui gouverne l'être tout entier. C'est le centre de notre être, le lieu où toutes les décisions sont prises. Et le mot cœur englobe aussi les concepts actuels de mon caractère, ma personnalité, ma volonté, mon esprit. Et ici, nous voyons dans ce premier verset que David passe d'un cœur orgueilleux ou d'une volonté prétentieuse aux yeux, et là nous pensons à la convoitise, jusqu'à une troisième étape, l'action. Et il met en avant un mécanisme, un, pensée ou désir présomptueux, deux, convoitise, tentation, trois, passage à l'acte. Pensée ou désir présomptueux, deux, convoitise, tentation, trois, passage à l'acte. Et de par un besoin profond de reconnaissance, nous pouvons nous enorgueillir de beaucoup de choses, de notre niveau d'études, de nos capacités, de mon apparence, de notre emploi, de notre position sociale, de nos ambitions, de nos résultats. Un tel orgueil vient du cœur, et s'il y a de l'orgueil dans le cœur, tout le reste de notre personne est affecté. Combien de fois mon orgueil, mon moi, prend le dessus? Un peu trop souvent, n'est-ce pas? Alors c'est vrai que les chutes sont inévitables. Et heureusement, nous pouvons nous relever. Il y a la reconnaissance du péché et le pardon de Dieu. Touchons ici au ménage profond que le Seigneur souhaite réaliser dans notre vie en nous débarrassant, entre autres, d'une identité mal placée. Identité mal placée qui serait nourrie par l'admiration des autres et ce besoin de reconnaissance. Le véritable souci, c'est quand nous n'en prenons pas conscience, que nous restons indifférents ou que nous rejetons l'entourage qui pourrait ou qui essaie de nous le faire remarquer. Et cet orgueil est destructeur. Cet orgueil est destructeur pour nous-mêmes, pour nos proches et pour l'Église. Ces signaux d'alerte sont donc bien utiles et restons attentifs à ces panneaux dangers lorsque nous sentons dépassés, agités, fébriles, tendus, nerveux, stressés, avant que le feu ne passe au rouge. Le troisième et dernier point de cette feuille de route, c'est rester calme. Rester calme. Alors c'est possible, nous avons l'exemple du grand David qui a écrit ce texte. David qui a un CV impressionnant, onction divine reçue par le grand Samuel, bel homme, musicien virtuose, compositeur hors pair de cantiques, un guerrier redoutable, un chef de guerre expérimenté, maintes fois victorieux, reconnu et adulé par son peuple. David qui a un témoignage spirituel et de vie exemplaire, déjà lorsqu'il était berger soumis à sa famille, et puis dans sa foi, Goliath, dans l'adversité, dans sa patience, dans les épreuves, tout le déroulé de sa vie est un témoignage. Le grand David qui s'est aussi humilié en dansant de toutes ses forces devant l'Éternel pour le célébrer, vêtu d'un simple vêtement de lin, au point de faire honte à sa promise. Encore un extrait d'un commentaire biblique. La disposition d'esprit qui se révèle dans ce psaume est bien celle qui a distingué l'homme selon le cœur de Dieu. Une chose en effet surprend entre toutes. En cet homme si admirablement doué des dons de l'intelligence et de l'imagination, au cœur si inflammable, à la volonté si forte, c'est qu'il est toujours refusé de hâter par une démarche quelconque venant de lui-même, l'accomplissement des plans de Dieu à son égard. Il a toujours refusé de hâter par une démarche quelconque venant de lui-même, l'accomplissement des plans de Dieu à son égard. Et en lisant cela, je pensais bien évidemment aux deux fois où David ne lève pas la main sur Saül, qui était à sa merci, refusant de se faire justice soi-même et s'en remettant à celle de Dieu. Ainsi, David, dans ce psaume 131, peut dire que son cœur reste humble, qu'il n'a pas d'ambition démesurée ou qu'il se serait engagé dans des projets qui le dépassent. Eh bien, le psalmiste, il a appris à préférer aux choses grandes et extraordinaires simplement la grâce de Dieu, la grâce qui lui suffit, la grâce toute suffisante de Dieu. Et c'est pour cette raison que David demeure calme. Malgré les grandes œuvres que Dieu, que le Seigneur lui a réservées, malgré les souffrances, il avance tranquille et paisible. Et cette tranquillité d'esprit est accessible pour vous, pour moi, quel que soit notre contexte de vie. Parce que ce calme se trouve sa source en Dieu seul. David a intégré cette vérité, le contentement est en Dieu seul. Le contentement est en Dieu seul. Dieu seul peut nous combler pleinement. Dieu seul peut répondre à nos besoins les plus profonds. Ici, David a reçu de Dieu la paix, la joie, le repos de l'âme, de l'esprit, indépendamment de sa vie mouvementée. Je suis calme et tranquille, comme un enfant sevré qui se trouve avec sa mère. Et ici, nous avons une belle image d'intimité avec Dieu, avec ce tableau mère-enfant. Vous imaginez cet enfant confiant dans l'amour de sa mère et dans sa protection. Est-ce que vous avez déjà observé les allers-retours de jeunes enfants qui ont déjà une certaine autonomie, je fais le parallèle avec le sevrage, et ils sont entre leur activité et leurs parents, ils font des allers-retours plus ou moins fréquents selon leur âge. Et je me rappelle de ma fille ou de mes garçons qui, absorbés par leurs jeux et leurs amis, ne manquaient pas de revenir chercher un petit câlin, parfois très furtif, avant de retourner à leurs préoccupations. La paix et la joie sont le fruit de l'esprit que l'on va chercher régulièrement à la source qui n'est autre que Dieu seul. Je cite aussi Paul Tripp, qui a été orateur ces dernières semaines à Évangile 21. Il dit ceci dans un de ses ouvrages, « Tant que vous recherchez la vie au sein de la création, vous ne la chercherez pas dans le Créateur. Tant que vous recherchez la vie au sein de la création, vous ne la chercherez pas dans le Créateur. » Eh bien oui, nous avons naturellement et charnellement tendance à chercher notre épanouissement dans la création, dans la société. Peut-être même dans l'Église. Ce qui est un obstacle à la découverte du contentement en Dieu seul. Je suis, par la grâce que Dieu m'accorde, un enfant de Dieu. Ou je peux le devenir pour ceux qui n'ont pas fait cette expérience. Je suis au bénéfice de l'amour du Père. Mon identité est uniquement dans le fait que je suis son enfant adoptif. Et c'est aussi dans ces temps d'intimité avec mon Père que je prends conscience de mon péché, de mon besoin de demander pardon. Et la démarche de pardon faisait partie de la vie de David. Vous connaissez le psaume 32, le titre c'est « Le bonheur du pécheur pardonné » ou le psaume 51, « Un retour à Dieu ». C'est dans la présence du Père que je puise la motivation, l'enthousiasme pour le servir. C'est dans la présence du Père que je fais le plein de cette essence de vie spirituelle qu'est un esprit reconnaissant. Restez calme en vue de proclamer l'espérance. Et ce psaume finit ainsi, « Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et pour toujours. » C'est comme si l'expérience du contentement en Dieu de David, en fait, il ne pouvait pas la garder pour lui-même. Il avait besoin de la partager autour de lui et de ne pas vivre égoïstement. Eh bien oui, cette paix, cette joie, elle se partage, elle se proclame. Et ainsi, avec enthousiasme, David interpelle son peuple. Et il y a un beau parallèle là, ici, dans ce qui devrait nous motiver dans nos ministères respectifs. Tout part de cette intimité avec Dieu. Le calme et la paix qui découlent de la qualité de la relation que nous entretenons avec notre Père proclament témoigne de l'espérance vivante en Dieu autour de nous. Auprès de nos frères et sœurs, pour les encourager, auprès de nos congénères, pour les interpeller. Alors restons, demeurons, revenons auprès de notre Père Céleste et jouissons de son calme ressourçant et enthousiasmant. Pour conclure, je rappelle simplement que le psaume 131 est l'un des 15 cantiques des montées, du psaume 120 au psaume 134. Et en Israël, à l'époque de l'Ancien Testament, les pèlerins qui souhaitaient rencontrer le Seigneur montaient à Jérusalem, donc à 745 mètres d'altitude, trois fois par an pour célébrer les différentes fêtes en l'honneur de l'Éternel. La fête de la Pâque, entre autres. Et pendant toute la route qui les rapprochait du temple, donc de la présence divine, ils chantaient les psaumes des montées ou cantiques dits des degrés. Et ils louaient Dieu et ils s'encourageaient les uns les autres. Nous rapprocher de la présence divine. C'est un beau programme, c'est un bel objectif de vie. Monter soi-même tout en aidant et en encourageant d'autres. Monter tous ensemble comme une famille qui prend soin de ses jeunes enfants pour atteindre le sommet de la montagne. Tout cela, c'est une mission très sérieuse, n'est-ce pas? Alors après, tu peux courir tout seul dans ton coin, tu prends ton chrono à la main, tes chaussures de trail dernier cri, tu mets des chaussettes de compression pour optimiser la performance, ton petit sac d'hydratation sur les épaules, et tu cherches la prouesse. Mais personne ne pourra te suivre. Sauf peut-être un certain David qui est devant moi. Sérieusement, vraiment sérieusement, je pourrais bien dégringoler un jour. Dégringoler de ce chemin étroit lorsqu'il devient glissant. Ou me tromper de piste parce que je n'ai pas pris le temps de revoir ma feuille de route. Si je fais confiance au Seigneur, il va m'accompagner dans cette ascension. Il assurera mes pieds dans les terrains délicats. Il va favoriser un pas tranquille, calme. Et il n'y a pas de souci à se faire puisque nous savons comment cela va se terminer. C'est la notion d'espérance. Nous savons comment cela va se terminer. Et ainsi, d'autres seront à leur tour motivés à me suivre par cet exemple de persévérance, de sérénité, lorsque le chemin se complique. Nous pouvons être un modèle. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et pour toujours. Et je conclue par la prière. Notre Dieu, tu nous dis aussi dans ta parole, c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Dans le calme et la confiance que sera notre force. Apprends-nous, Seigneur, à vivre cette intimité avec toi, à nous ressourcer en toi, à découvrir qui tu es, à découvrir toutes les dimensions de ton amour, merveilleux, admirable, toute ta compassion, à découvrir dans ta parole le regard que tu portes sur nous. C'est vrai, parfois nous chutons, mais tu es toujours là pour nous relever, tu as payé le prix à la croix de notre péché, tu nous tends la main pour que nous puissions marcher sereinement auprès de toi. Seigneur, humilie nos cœurs, donne-nous de regarder à toi et que tout ce que nous mettons en œuvre soit viennent de ta motivation visant l'espérance que tu nous donnes, cette espérance vivante, sûre et certaine.